Vous écoutez Ballet Pat saison 2, épisode 8. Stéréotypes de genre et culture du viol dans les médias.
Un podcast RFI.
Après avoir exploré l'impact des réseaux sociaux sur MeToo dans la prise de parole des survivantes de violences sexuelles et des féministes africaines dans l'épisode précédent, j'ai décidé cette fois de mener une réflexion sur la place des médias traditionnels dans cette nouvelle ère féministe. Je me suis donc posé ces questions. Quel rôle joue-t-il dans la lutte contre les inégalités des sexes? Comment aborde-t-il les questions de violences sexuelles et les sujets liés au rapport entre les femmes et les hommes? Dans mon questionnement, je me suis rendu compte que les gens étaient beaucoup plus enclins à aborder cette thématique sur les médias sociaux que dans les médias traditionnels. Sans doute du fait de l'utilisation de pseudonymes sur les plateformes numériques et la liberté de ton qu'elles permettent. Peut-être cela a aussi été dû au fait que les médias classiques ne proposaient pas assez de contenu sur cette thématique. Et même si ces contenus existaient, le traitement qui était proposé contribuait à renforcer la domination patriarcale. La théoricienne du féminisme noir, Bell Hooks, que je cite souvent, avait certainement raison dans son livre « La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour » quand elle écrivait, je cite, « Les médias de masse se chargent d'endoctriner en permanence hommes et garçons en leur enseignant les règles de la pensée et de la pratique patriarcale. Si l'exigence féministe de remise en question et de renversement du patriarcat a eu si peu d'impact sur les hommes, c'est principalement parce que cette théorie était avant tout diffusée dans des livres. La plupart des hommes n'achetaient pas et ne lisaient pas de livres féministes. » Fin de citation. Plusieurs travaux l'ont démontré. Les médias sont connus pour être des outils d'influence, même sur leur positionnement sur les questions de féminisme et de violence sexuelle. Nous l'avons par exemple vu dans l'affaire Sweet Beauty, qui a tenu le Sénégal en haleine durant plusieurs mois en 2023. Je vous résume. Adissar, une ex-employée d'un salon de massage, accusait de viol répété un certain Ousmane Sonko, celui qui était alors le leader du parti PASTEF et à ce titre l'un des principaux opposants du président Macky Sall, est devenu plus tard le premier ministre sénégalais. Je vous rappelle le statut respectif de chacun des protagonistes. D'un côté, une jeune inconnue soudainement propulsée au devant de la scène médiatique et de l'autre, un homme politique adulé par la jeunesse. Sans surprise, les médias sénégalais semblaient dans leur immense majorité avoir déjà fait leur choix dans le traitement de cette affaire en stigmatisant encore plus la plaignante. La Sénégalaise Ndeye Fatou Kane, féministe, autrice et chercheuse sur le genre, nous donne sa lecture de ce traitement médiatique.
Cette jeune femme, à chaque fois qu'elle fait une apparition médiatique, soit insultée. Et une fois que l'on ose s'exprimer sur cette question-là, on est insulté. Les quelques rares apparitions médiatiques, les quelques rares interviews qu'elle a faites ont été faites dans des médias étrangers. Et c'est l'occasion de voir encore que les médias sénégalais, les médias locaux, ont peur de s'emparer de ces questions frontalement. Mais soit quand elle ne parle pas, elle est insultée, critiquée. Quand elle parle, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'elle est la bonne posture à adopter? Alors, je me rappelle que lorsque l'affaire a éclaté, il y a une de journal, je la conserve, ça, je me dis, c'est une relique vraiment très précieuse. On avait mis une grande photo d'Adissa en couverture. C'était l'Observateur, qui est un des quotidiens sénégalais les plus lus. Et ils avaient fait un titre qui m'avait heurté. Adissa s'appelle SAR, S-A-2-R, son nom de famille. Et il y a la SAR, la Société africaine de raffinage. Et ils avaient écrit « La Sarre raffine le brut ». Donc du coup, bah, c'est elle qui... Voilà, ce jeu de mots, j'avais trouvé ça non seulement très dégueulasse, très insultant. Et puis sa photo. Parce que je me dis, si c'est deux protagonistes, deux personnes, pourquoi pas mettre leurs deux photos? Mais c'est sa photo qu'on avait mise en une du journal. Donc forcément, dans l'imaginaire collectif sénégalais masculin, tout est de sa faute.
La pression médiatique couplée à celle des médias sociaux a été telle qu'Adissar vit désormais cachée. En mars 2022... Dans une interview accordée à RFI, elle disait recevoir de nombreuses menaces de mort et vivre dans la peur.
RFI. Je dormais pas, je mangeais pas.
J'avais tout le temps peur, même en allant à la douche, je portais mes habits par peur d'être attaquée.
Mais vous aviez peur de quoi?
J'avais peur des violences, tout le monde m'insultait et même ma propre famille avait peur de s'identifier à moi. Ma famille craignait de m'appeler au téléphone ou de venir me voir, de peur d'être tuée après. Il n'y avait que moi et ma peur. J'avais peur de sortir et d'être reconnue, ce qui continue jusqu'à aujourd'hui.
Et justement, aujourd'hui, de quoi vous vivez ?
Je vis avec ma grande sœur, ma petite sœur et avec une tante. Il y a une association qui nous vient en aide. Bon, pour les protéger, je ne donne pas leur nom. Je suis tout le temps obligée de déménager. Ma tante qui est restauratrice m'appuie aussi, mais sinon, personne d'autre ne m'aide et je dois déménager tout le temps.
Un an après, dans quelles conditions vous vivez et qu'est-ce que vous faites toutes vos journées ?
Je suis tout le temps entre le salon et ma chambre. Je ne peux pas aller sur le balcon ni élever la voix pour ne pas réveiller les soupçons et pour que les gens ne m'embêtent pas. Je fais rien à part prier.
Nombreuses sont les femmes qui se sont reconnues en Adjissar. Pour moi, cette affaire expose clairement la façon dont les médias traitent les affaires d'agression sexuelle et comment les femmes qui osent porter plainte sont traitées. Les hommes ont été poussés, malgré eux, à regarder en face les changements qui s'opèrent dans la prise de parole des femmes depuis MeToo et grâce aux médias sociaux. Ces plateformes où tout le monde peut contribuer ont été un levier important pour les féministes. Tout ce qui passait autrefois sans susciter de réaction est inconcevable aujourd'hui. C'est ainsi que le débat féministe s'est imposé dans l'espace public. Les féministes ont créé des espaces de discussion pour informer d'autres femmes sur ce qu'est le féminisme, comment parler des violences sexuelles, comment prendre la parole quand on est une survivante ou quand on s'adresse à une survivante de violences sexuelles. Tout cela a contribué à la dénonciation de faits par le canal des médias sociaux et a suscité l'indignation, le débat et la mobilisation. À travers le monde, plusieurs chaînes de télévision se sont emparées du sujet et ont parfois lancé de nouveaux programmes. En Afrique, signalons le lancement en 2019 de l'émission Le cœur des femmes sur Canal+, une chaîne très suivie en Afrique de l'Ouest, ou encore Les femmes d'ici, diffusée par la NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, qui va également en tirer un nouveau concept, Les hommes d'ici, pendant les vacances en 2022. Muriel Edouard, rédactrice en chef de ces émissions sur NCI.
Alors cette émission-là a été prévue pour animer l'intersaison 2022 à NCI, on va dire quoi, les vacances. Alors, l'émission a fait un bim, comme on le dit en Côte d'Ivoire, parce que dans la conception même homme d'ici, c'était quelque chose de nouveau, des hommes qui prennent la parole, qui s'expriment sur des sujets de société, sur des sujets de couple, sur des sujets où on ne s'attend pas toujours à ce qu'ils aient la parole ou à ce qu'ils s'expriment. Voilà, je pense que ça a été bien reçu. Sur ce plan-là, ensuite, c'était les individualités plutôt, au niveau des présentateurs. On avait 3 présentateurs. Siro, qui est connu en Côte d'Ivoire comme faisant partie du groupe Yodé et Siro, qui est donc artiste-chanteur. Le coach Yomo, bien connu sur les chaînes de NCI pour être expert dans le domaine familial, de couple et tout ça, de faire du coaching, du développement personnel aussi. Et puis, Juste Crépin, qui est un activiste sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier. Donc, c'était vraiment des profils atypiques. Il fallait avoir des personnes déjà qui ont de l'audience, des personnes qui sont aimées par les jeunes, qui sont aimées autant par les femmes comme par les hommes. Et on s'est dit, ces 3 combinaisons-là, c'est vraiment top. Siro, moi-même, qui ai été sa coach et sa red chef pendant tout le moment qui a duré les hommes d'ici pour l'intersaison 2022, j'ai dansé sous ses mélodies étant plus jeune et tout ça. Il est vraiment aimé. Il est vraiment aimé de la population ivoirienne. Il est populaire. Il est vraiment aimé de tout le monde, des jeunes, des femmes. Et il faisait vraiment l'affaire. Et on avait besoin de quelqu'un comme ça qui, à un moment donné, on va dire quoi, pouvait un peu se lâcher, voilà, faire vivre l'émission. Juste Crépin, on l'a choisi parce qu'à chaque fois qu'il fait une sortie sur Internet, sur un sujet de société, ben voilà, il dit vraiment tout haut ce que les gens pensent très bas. Et souvent, ça fait mal parce qu'il a des paroles choc. Coach Yomo, on va dire quoi, c'est le chouchou des femmes. À chaque fois qu'il intervient dans une émission, Coach Yomo, il est super, c'est l'homme idéal, c'est le mari idéal, il est tout bien, il est parfait, il est clean. Donc voilà, on s'est dit, bon, une bonne petite salade de 3 personnalités différentes comme ça, ça va être top.
Et c'était un choix, dès le départ, un choix très tranché de mettre que des hommes.
Oui, très assumé. Un choix tranché d'avoir que des hommes pour s'exprimer, voilà, dans les hommes d'ici.
Et pourquoi ?
Je ne vais pas me faire l'avocate des autres cultures d'Afrique, mais dans la société ivoirienne, on apprend aux petits garçons à ne pas exprimer en fait tout ce qu'ils ressentent, souvent même à ne même pas pleurer. Et les hommes vivent des choses, ce sont des êtres humains. On a des frères, on a des époux, on a des amis, on a des collègues hommes qui ont leur avis sur des questions. Mais comme la plupart du temps, on ne leur permet pas de s'exprimer, ou alors la culture depuis l'enfance fait qu'ils n'ont pas à s'exprimer sur certains sujets de société, de couple, d'enfants même, de vie de famille, on s'est dit, mais pourquoi pas ne pas tenter le coup? Parce que moi, je veux dire, avec des collègues ici, avec des amis dehors et tout ça, on en parle et je vois bien que les hommes, ils ont besoin de s'exprimer. Ils ont des émotions et vraiment, les connaître, c'était vraiment bien. Voilà. Et aussi, il faut dire que les hommes d'ici, ça a été voulu aussi parce qu'on voulait faire le contre-pied aux femmes d'ici. Les femmes s'expriment, les femmes pleurent, les femmes racontent, les femmes ont des émotions, les femmes ont toujours des histoires à raconter partout, dans les salons de coiffure, on peut retrouver la gente féminine. Et on s'est dit comme ça, les hommes, le compte-pied, qui vont s'exprimer sur les mêmes sujets, alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils pensent comme nous? De leur point de vue, est-ce qu'on partage toujours la même chose? Comment ils perçoivent les choses? Parce que moi, je pense en fait qu'on n'est pas forcément égaux. On est complémentaires dans les choses. Donc également dans la manière de penser. Chacun a une approche différente en fonction de son vécu, en fonction de ses expériences, en fonction de comment la société le perçoit également.
L'idée était évidemment que ces émissions fassent à leur tour le buzz sur les réseaux sociaux. Les conversations sont donc circulaires entre ce qui se passe à la télé, ce qui se dit sur les réseaux et vice-versa.
On a choisi les thématiques de Les Hommes d'ici. Déjà, il y en a eu 10. Il y a eu 10 émissions pour l'intersaison. On les a choisies parmi les thèmes abordés dans Les Femmes d'ici, mais qui ont vraiment fait un buzz. On s'est dit, bon, on ne va pas réfléchir très loin. On va prendre 10 sujets là, parmi, et voir comment les hommes y réagissent par rapport à ça. Voilà. Et ça a été fait ainsi. Et je peux vous dire que pour certains sujets, on avait vraiment de la surprise. Moi-même, en tant que rédactrice en chef derrière les caméras, régie vidéo, j'ai beaucoup appris de ces messieurs-là. Ils cachaient beaucoup de choses dans le cœur. Et ça a été exprimé, ça a choqué le public féminin au départ. Et puis, elles ont compris, pour celles en tout cas qui avaient vraiment cet esprit critique-là, elles ont compris, les hommes ont pu s'exprimer. Et je pense qu'on a fait quand même bouger les choses au niveau du paysage audiovisuel et dans les mentalités de chaque personne. En tout cas, pour ceux que nous avons pu toucher.
Et les thèmes qui ont un peu suscité du débat dans l'espace public et aussi sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez un ou deux thèmes en tête, deux exemples à peu près?
Oui, alors on a ouvert l'émission avec un sujet choc. C'était fait exprès, bien sûr. C'était épouser une mère célibataire. Pourquoi pas? Alors, je me rappelle de l'intervention de Gilles Crépin. Il a dit « Je déconseille à tout jeune qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas papa, à la base, de se mettre en relation, en couple donc, avec une maman célibataire. Un enfant, ça va, on peut gérer, mais à partir de 2-3, c'est difficile. » Donc, les gens, chacun a compris selon ce qu'il voulait comprendre. Et ça a été vraiment interprété de part et d'autre, comme quoi Gilles Crépin était contre le mariage des mères célibataires, ça peut arriver à tout le monde. Il a reçu bien de commentaires assez durs. Mais je pense qu'au fur et à mesure que l'émission était rediffusée, que les gens partaient sur nos différentes pages Facebook et YouTube, ils ont compris bien que c'était juste un conseil. Voilà, ce n'est pas un avis tranché, c'est son conseil, il est conseil et il a donné une argumentation qui va avec. Voilà, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu l'émission, je crois que c'était la dernière. Je crois qu'on a bien fait les extrêmes. C'était sur le consentement sexuel vu et expliqué par les hommes. Voilà, donc on a vu ici qu'au niveau de la femme, elle avait une manière de penser, engagement ou bien accord vers les relations sexuelles. Et les hommes aussi avaient leur manière de penser. Donc je veux dire, ce sont des petits bims comme ça qui ont agité la toile ivoirienne en fait.
Comment cette émission-là pour vous à peut-être chambouler le paysage audiovisuel ivoirien?
Ce n'est pas seulement les hommes d'ici qui ont modifié le paysage audiovisuel ivoirien. Je pense que c'est un processus. Ça part déjà de les femmes d'ici. C'est difficile pour moi de m'exprimer sur les hommes d'ici sans parler de les femmes d'ici, parce que les hommes d'ici, en fait, sont tirés de les femmes d'ici. Les religieux diront que, ouais, Adam, c'est à partir de la côte d'Adam qu'on a tiré la femme. Mais c'est tellement chic ce qui se passe là actuellement. j'ai envie de dire que c'est à partir des ovaires de Ève qu'on a tiré Adam. Donc, c'est à partir des ovaires des femmes d'ici qu'on a tiré les hommes d'ici. C'est trop top. Donc, c'est difficile. Ça a changé depuis les femmes d'ici parce qu'on a permis aux gens de s'exprimer sur vraiment tous les sujets de société. Ce n'était pas que la vie de couple. Il y avait aussi la santé, il y avait aussi le droit, il y avait aussi la religion aussi. On a abordé des thèmes religieux. Et les gens ont eu la parole. 4 jeunes dames déjà qui s'expriment sur un sujet de société. Avec les hommes, on a fait 3, mais c'était pareil. C'était des avis divergents. C'était des avis de chaque couche de la population. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé d'écouter l'autre et puis de se faire sa critique soi-même. Et moi, je suis persuadée que ça a changé le paysage médiatique ivoirien. Parce qu'après, on a eu toute la concurrence. Je ne vais pas les citer. On a eu toute la concurrence aussi qui s'est mise sur des émissions à thème. Voilà, tout le monde a commencé à faire des émissions à thème. Je suis tant, je pense que tant, on m'a fait ci, des appels à témoins un peu partout. Donc je pense que voilà, nous, on a vraiment impacté le paysage socio-culturel en Côte d'Ivoire, le paysage social et le paysage médiatique aussi.
La recherche du buzz est-elle la seule raison qui a poussé la NCI à créer ses émissions? Peut-être que non. Même si la rédactrice en chef assure que les hommes d'ici n'étaient pas nés à la suite de l'affaire dont je vais vous parler. Car un an auparavant, la chaîne avait été secouée par un scandale.
Bon, voilà une go, par exemple. Comment tu fais? Tu l'attaques de devant ou de derrière? Va, nous montre comment tu faisais.
Souvent, on fait seulement les saluer, puis on se dépasse.
Ouais.
Dès qu'on arrive, on attrape le cou. Et là, on l'attrape, et puis... Franchement, il faut dire qu'on presse les seins.
Oui, oui. Mais ça peut l'exciter.
Oui. Tu m'as fait tomber.
Et tu touches son sexe.
Oui, faut se...
En août 2021, dans l'émission La télé d'ici vacances sur la NCI, l'animateur de l'émission Yves Dembella invite un ex-détenu condamné pour viol, coups et blessures à venir simuler un viol sur un mannequin. Ce dernier s'exécute devant un public indifférent. La séquence dure plus de 2 minutes sans qu'aucune personne sur le plateau de l'émission ni dans le public ne se meuve. Pis encore, tout le monde a applaudi après cette scène choquante. Ce qui semblait au départ partir d'une volonté de créer un cadre de discussion médiatique sur le viol s'est transformé en une séquence de banalisation de la culture du viol.
On en vient à cette polémique en Côte d'Ivoire. Elle a été provoquée par la diffusion sur une chaîne de télévision lors d'une émission à grande écoute de la reconstitution d'un viol, le violeur repenti.
Les féministes ivoiriennes sont montées au créneau. L'émission a choqué et l'indignation est allée au-delà des frontières ivoiriennes jusque dans les médias occidentaux.
Sanctionner les chaînes qui diffusent ce genre de contenu.
Bonsoir, écoutez, en fait, c'est carrément, on va dire, représentatif de la société ivoirienne. J'ai pas envie de dire de la société.
La pression médiatique et les réseaux sociaux aidant, la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle, ACA, a fini par réagir dans un communiqué après une pétition qui lui était adressée et qui a recueilli près de 38 000 signatures. L'institution de régulation audiovisuelle a sanctionné l'animateur. Il a été suspendu pour une durée de 30 jours de toutes les antennes des chaînes de télévision et de radio en Côte d'Ivoire. Dans l'emballement médiatique, la justice a été plus que prompte à se saisir de cette affaire. L'invité violeur a été condamné à 24 mois d'emprisonnement ferme et 500 000 francs CFA d'amende, environ 760 euros. Yves Dembella a quant à lui écopé de 12 mois de prison avec sursis et 2 millions de francs CFA d'amende, environ 3 000 euros, pour outrage public à la pudeur et apologie du viol. Cette sanction a été saluée mais jugée insuffisante pour les organisations de la société civile, notamment la Ligue ivoirienne des droits des femmes qui a souhaité que la responsabilité pénale de la chaîne privée soit engagée. La direction de la NCI s'est contentée de présenter ses plus sincères excuses et exprimer sa solidarité avec les femmes victimes de violences et d'abus de toutes sortes, mais sans prendre de sanctions à l'encontre d'aucun membre de sa hiérarchie, alors qu'il y a une chaîne de responsabilité au sein de toute organisation médiatique. Tout comme l'affaire Sweet Beauty au Sénégal, ce cas est symptomatique du traitement réservé dans les médias aux affaires de violences sexuelles et aux victimes. Il illustre aussi l'omniprésence de la culture du viol dans les sociétés et dans les médias africains. Les médias, en banalisant les agressions sexuelles et le viol, contribuent à les accentuer et à les normaliser dans une société dont les traditions sexistes sont bien ancrées et qui a tendance à minimiser les violences faites aux femmes et aux filles. Dans le prochain épisode,
Il sera question de l'importance ou pas de la présence d'une figure paternelle dans l'éducation des garçons. Gloire Wanieff, que vous avez entendue dans les épisodes précédents, nous parlera de l'environnement familial dans lequel il a grandi et comment cela l'a façonné. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, surtout aux hommes de votre entourage, car la question des masculinités est tout aussi importante que le féminisme. Vous avez aimé cet épisode? Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À bientôt!